Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 gigawatts! Mon Dieu!
Recherche,
scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Quelle belle journée! Ça sent bon le printemps!
Eh oui!
La marée.
Ça sent...
Elle veut que tu m'as des ailes qui rondelles autour de elle et là-haut dans le ciel.
Elles se sont envolées, sauf qu'elles n'ont pas pris la voie des airs, elles ont simplement disparu. Les hirondelles sont de moins en moins nombreuses à faire leur nid en métropole. Pour certaines espèces, les pertes sont immenses. On parle d'un tiers des effectifs en moins entre 2008 et 2018. En cause, le manque de nourriture pour migrer depuis leur pays de départ, mais aussi chez nous, l'urbanisation, les pesticides. Sans parler de la destruction de nids qu'on pense abandonner car ils ne sont occupés qu'une partie de l'année. Alors faites l'essai, on ne voit qu'elle en mars, mais levez la tête en janvier. Il n'est pas impossible que vous aperceviez le bout d'une plume. Avec le réchauffement climatique, la messagère des beaux jours a perdu sa ponctualité légendaire. Alors les hirondelles ne font plus le printemps, mais elles sont peut-être aussi à l'automne de leur vie. Peut-être que oui, peut-être que non, car Rachel Mulot est là. La chef du service enquête de Science et Avenir ne va pas repeupler toute seule la France avec des portées d'oisillons plein les bras, mais elle a un message d'espoir qui tient en 4 pages. Son article s'intitule « Et si les hirondelles faisaient de nouveau le printemps ?» C'est ce « et si » qui sera au cœur de notre émission. Bonjour Rachel.
Bonjour Romain.
Alors, j'ajoute de suite une petite question un petit peu en préambule, mais j'imagine que le printemps, c'est une accroche actue en soi, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu l'envie de te pencher sur la cause de nos amis à plumes ?
En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions et des possibilités pour permettre la réinstallation de ces hirondelles dans l'Hexagone. Ça m'a donné envie de faire un article à une tonalité plus optimiste que ce qu'on trouve actuellement dans les rubriques écologiques.
Alors bon, tu as fait un petit peu la présentation de l'animal, mais c'est encore là une question bête, décidément. Mais comment on reconnaît une hirondelle ?
Alors, il y a ces ailes courbes qui sont parfaitement profilées pour le vol, mais elle est aussi souvent assez colorée. C'est ça qui la distingue du martinet. Et elle a d'ailleurs des pattes un peu plus longues. Le martinet, il ne se pose jamais. Il se poursuit en bande en permanence. Les hirondelles, quand elles migrent, même en nombre, elles sont un peu plus paisibles. Et surtout, on les retrouve, dès qu'elles le peuvent, posées sur un fil. Il n'y a plus de fil électrique aujourd'hui parce qu'ils sont enterrés. Mais c'est à ça qu'on reconnaîtra aussi les hirondelles, parce que les martinets ne se posent jamais.
Ok, très clair. Alors comme nous, les hirondelles ont connu un printemps assez particulier, avec le confinement d'ailleurs, bon, même si là on a déconfiné, on enregistre à distance. En quoi est-ce qu'elles ont pu profiter de notre interdiction de sortir ?
Alors c'est sûr qu'elles ont trouvé finalement des villes et des campagnes beaucoup plus silencieuses. Et c'est sûr qu'on aura pu de ce fait les observer plus facilement. Mais il faut quand même comprendre que les hirondelles sont des oiseaux extrêmement humanophiles. Il paraît que notre histoire commune remonte à plus de 30 000 ans, 40 000 ans, voire 50 000. Et que visiblement, quand les premiers hommes préhistoriques sont entrés dans des cavernes, bah, ils y ont trouvé des hirondelles. Et chacun y a peut-être trouvé son intérêt commun. En fait, les hirondelles, sauf celles de rivage, et encore, elles sont encore dépendantes de l'humain, les hirondelles, elles aiment la compagnie des humains et elles ont même besoin de leurs aides. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut concrètement les aider. Donc, ce calme, ce silence qui a régné pendant le confinement leur a été sans doute profitable. Mmh. Mais si les gens ne font pas des hirondellières comme on fait des chatières dans la porte de leur garage, laisse les nids s'installer sur les fenêtres ou leur permettre de s'installer du côté des rochers, des mines, des gravelières, des carrières, etc.
Ah, ouais, on reviendra, on va explorer voilà, tout ça.
Elles pourront s'installer et probablement durablement.
Tu t'envoles comme une hirondelle effarouchée.
Les hirondelles n'ont pas été les seules à se risquer dehors. C'est, tu me diras justement si je dis des bêtises, mais il me semble que pendant le confinement, l'occasion était limite trop belle pour que des associations et observateurs n'en profitent pas pour observer les populations, on va dire les effectifs, c'est le terme technique, d'hirondelles.
Oui, il y a eu plusieurs initiatives. Confiner mais vigilants, notamment avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais dans certaines régions, on a incité également les gens à observer et photographier depuis leur balcon, dans leur jardin, les différentes hirondelles et à renvoyer en fait toutes les données vers des centres ornithologiques qui ensuite concentrent l'ensemble des datas, de façon à savoir quand les hirondelles avaient pointé leur nez de retour en France et quel nombre elles étaient, puisque dans sa première question, tu me disais combien y a-t-il d'hirondelles en France
ouais.
Voilà, mais en fait, selon l'hypothèse basse, il y en a 1 590 200, et selon l'hypothèse haute, les meilleures années, il y en a jusqu'à 2 650 350. Je parle de couple.
Oui, ok.
Parce que en fait, les hirondelles, même si elles divorcent, beaucoup, en général, elles nichent en couple pour élever les petits.
D'ailleurs, tu disais dans ton article, la métaphore était belle, c'est que tu disais qu'en gros, elles étaient peut-être pas trop fidèles en amour, mais en revanche, elles étaient fidèles au nid.
Oui, c'est compliqué parce que ce sont les mâles qui reviennent les premiers. On a bien dit, peut-être je l'ai oublié tout à l'heure, que c'était des passereaux migrateurs qui viennent du sud, autrefois d'Afrique et maintenant de régions beaucoup plus proches. Les mâles arrivent les premiers, ils repèrent les sites, ils retrouvent souvent les sites originels, et une fois qu'ils ont conquis, c'est d'une femelle, même si c'est pas la même que l'année précédente, ben c'est elle qui se tape tout le boulot de la construction du nid, qui prend entre 1 et 3 semaines et qui nécessite entre 700 et 1450 boulettes de boue. T'imagines le travail de maçonne,
j'avoue,
que font ces hirondelles. Et c'est vrai qu'ils adorent revenir nicher dans le même endroit. Mon grand-père, lui, tous les ans, dans son étable, c'était un petit paysan, il attendait à chaque fois le retour de ces hirondelles. Et souvent, c'était le même mâle, pas toujours la même femelle.
Alors du coup, il devait les attendre plutôt au mois de février-mars, alors que dans ton article, j'ai découvert qu'il pouvait arriver maintenant que les hirondelles débarquent plus tôt.
Alors, il les attendait plutôt au mois de mars, qui était le printemps, donc c'était dans les années 60-70. Donc, il les attendait en mars. De plus en plus, on les voit en février. Et là, il y a un ornithologue de la LPO de Rochefort, la Ligue de protection des oiseaux de Rochefort, qui centralise un peu toutes les données, qui m'a dit que en France, en 2020, la première hirondelle arrivée a été une hirondelle rustique et elle a été aperçue dès le 2 janvier dans le Marais breton, en Vendée. Il y a 20 ans, les plus intrépides arrivaient en février et le gros de la troupe ailée arrivait en mars. Désormais, elles arrivent en fait beaucoup plus tôt. On s'est rendu compte notamment qu'elles ne passaient plus l'hiver dans le Sahara, mais dans la péninsule ibérique, au Portugal, en Espagne. Et ça, c'est comme les cigognes, les petits ducs, les torcoles ou les mille en noir, beaucoup d'oiseaux voient leur calendrier perturbé en fait par le changement climatique. Et le phénomène pourrait s'accélérer.
Ok, bon, encore une bonne nouvelle. Ouais. Et en gros, c'est parce qu'il fait trop chaud, c'est ça, dans les régions où elles étaient avant. Et du coup, elles privilégient des régions peut-être un poil moins chaudes. Et ensuite, elles migrent toujours vers la France.
Oui, en fait, ce dont elles ont besoin, c'est de trouver des endroits où elles vont pouvoir, pendant notre hiver, se nourrir d'insectes volants. En fait, il faut qu'elles préparent un très long voyage migrateur par la suite. Et donc, il faut qu'il fasse assez chaud et il faut qu'il y ait un tas de bestioles volantes. Alors, c'est des mouches, des moustiques, des fourmis volantes, des libellules, des papillons. Et pour peu qu'elles trouvent des sites où il y a abondance de nourriture pendant les saisons hivernales, elles s'installent là. Pourquoi aller plus loin et se fatiguer, perdre de la graisse et s'épuiser alors qu'elles peuvent trouver des points d'abri hivernal plus proches?
Alors du coup, si elles débarquent plus tôt en France, on disait que c'était effectivement, on associe, on dit que, c'est-à-dire c'est le titre de ton article, c'est les hirondelles font le printemps parce que justement c'est un peu entre guillemets les messagères des beaux jours au mois de mars. Là, si elles débarquent au mois de janvier, est-ce qu'elles restent plus longtemps en France?
Oui, si elles survivent. La saison des amours, ça peut être 2 à 3 couvaisons. Et si au début, elles sont mal nourries parce qu'elles sont revenues un peu trop tôt et qu'il n'y avait pas suffisamment d'insectes volants, en réalité, ça fait des oiseaux, des oisillons chétifs qui décollent mal du nid. Et donc, elles recommencent un peu plus tard. Si jamais les insectes s'installent plus tôt, ce qui a l'air d'être le cas, hein, et notamment pour les moustiques en France avec le changement climatique, elles continueront à venir plus tôt.
Ok. Est-ce que le réchauffement climatique a une autre influence sur leur comportement? Ou tu disais, effectivement, elles changent déjà de lieu de migration?
Non, vraiment, la question, c'est celle... ça pourrait être l'assèchement aussi de points d'eau comme les roselières dont elles ont besoin. Mais franchement, ce dont elles ont besoin avant tout, c'est quelques points d'eau, des mares de boue, des mares en pente douce et de la nourriture. Mais à partir de là, si en février tout ça est disponible, elles viendront de plus en plus tôt. Et dans ce cas, elles ne feront plus le printemps, mais elles annonceront le pré-printemps.
Effectivement.
Qu'est-ce que ne fait pas une hirondelle?
Une hirondelle? Le printemps?
Alors, t'évoquais d'autres causes que le réchauffement climatique dans justement la disparition des hirondelles. Tu parlais de pesticides, d'urbanisation. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux un peu des menaces qui pèsent, donc on l'a dit, sur les hirondelles qui appartiennent à la plus grande catégorie des passereaux?
Tout d'abord, ce qui serait peut-être pas mal de comprendre, c'est que ce sont des espèces protégées et que le Code de l'environnement punit en fait la destruction des sites de reproduction, des aires de repos ou des nids, d'une amende qui peut aller jusqu'à 15 000 euros assortie d'un an de prison. Donc, je pense que les autorités locales, régionales, enfin les élus en sont parfaitement conscients et qu'ils essayent d'éviter ça. Après, on a deux problèmes majeurs, mais qui sont normalement, si on est sur la route de la transition écologique, en passe de se résoudre. La première, c'est la surutilisation de pesticides. Je comprends que dans certains sites comme la Camargue, on a très envie d'éradiquer les moustiques. Et maintenant qu'on sait que le moustique tigre, lui aussi, grâce au changement climatique, il fait son chemin et il remonte de plus en plus dans le nord. La deuxième menace, c'est la destruction des zones humides. Elles ont absolument besoin, pendant leur trajet, d'abord pour faire des rencontres, mais aussi pour se reposer, elles ont besoin des zones humides, notamment des roselières. Or, depuis Natura 2000, on essaye de restaurer à toute force ces roselières. Donc moi, je dirais, moins de pesticides, plus de zones humides préservées, c'est déjà un environnement favorable. Après, le reste, ça repose vraiment à la fois sur les associations et sur la responsabilité des particuliers.
Ouais, il a un peu la responsabilité de chacun, justement, à ne pas détruire un nid parce que, justement, on a l'impression qu'il n'est pas utilisé parce que il y a personne dedans au mois d'août, quoi.
En fait, on a 5 types d'hirondelles très différentes en France. La plus abondante, c'est l'hirondelle rustique qui peut venir nicher dans ton garage ou même dans une porte de MJC, d'HLM, si jamais on leur fait une entrée. La deuxième, c'est l'hirondelle de fenêtre. Et c'est peut-être celle-là qui demande le plus d'efforts aux humains parce qu'en fait, les néo-ruraux, surtout, sont leurs principaux ennemis. Ils s'installent à la campagne et ils ne supportent pas que les hirondelles viennent salir leur crépi. Mmh. Alors que c'est tout simple, hein. On laisse le nid, on cloue une planchette en dessous Et comme ça, les déjections viennent dessus et elles ne viennent pas salir la maison. Et donc, il y a beaucoup de destructions concernant les hirondelles de fenêtres qui partent sur ce malentendu. Ensuite, il y a des façons très simples d'aider. C'est si jamais on s'aperçoit que des hirondelles de rivage ou des hirondelles de rocher. Alors, les hirondelles de rivage, elles nichent le long des réseaux fluviaux. Les hirondelles de rocher, elles aiment bien aussi les tunnels. Elles sont très opportunistes, elles s'adaptent très bien aux humains. Elles sont capables d'aller sous le tunnel du Mont-Blanc et de faire leur nid, etc. C'est de prévenir la LPO, de parler avec les bâtisseurs et les constructeurs et de trouver des solutions pour préserver les nids ou pour en construire à côté. Mmh. Parce qu'en fait, on se rend compte que ces hirondelles, elles sont pas du tout hostiles aux nids préfabriqués qu'on pourrait leur faire. À Nice, il y a l'exemple en fait d'un bâtiment qui devait être détruit et sur lequel il y avait une douzaine de couples d'hirondelles de fenêtres qui nichaient. Bien, grâce à la LPO, ils ont construit un hôtel à hirondelles juste à côté. Et elles sont docilement venues l'occuper. Dans les carrières, on peut aussi prévenir en fait les entrepreneurs et ils peuvent aussi décider d'épargner certaines zones de sablière pour que les hirondelles de rivage puissent continuer à y nicher. C'est un dialogue qui permettrait à l'hirondelle de revenir largement, alors qu'on sait qu'elle est quand même extrêmement utile. Une hirondelle, ça peut quand même manger 3000 moustiques par jour.
Voilà, oui, on allait y venir, hein. C'est ça, c'est que c'est des animaux qui sont d'utilité publique.
Bien sûr.
Tu as donné quand même quelques noms là, assez importants d'hirondelles. Alors, effectivement, tu disais que l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle de rustique, c'était les plus communes en France, mais aussi les plus impactées au niveau des populations. Alors, dans ton article, tu donnes des sites d'un tiers, voire 41% de baisse des effectifs entre 2008 et 2018, alors que on a d'autres espèces, alors, par exemple l'hirondelle rousseline ou l'hirondelle des rochers dont tu parlais tout à l'heure, dont la population a bien grimpé, mais on est sur des populations qui sont bien plus faibles, mais qui quand même s'en sortent mieux. Comment ça se fait ?
Alors l'hirondelle des rochers, c'est simplement parce que c'est une incroyable opportuniste. Mais alors elle, d'un point de vue évolutif, c'est un petit génie en fait. C'est-à-dire qu'elle est capable de s'installer dans les rochers qui ont été éclatés, dans les tunnels. Elle s'installera un peu partout et elle ne craint pas la présence de l'homme. Quant à l'hirondelle rousseline, c'est une opportuniste d'un autre genre. C'est une migratrice en fait, tout à fait récente. Elle nous vient d'Afrique et avec ce changement climatique, elle a commencé à coloniser le sud de la France. Et si jamais effectivement les températures continuent à grimper, elle continuera à s'installer.
Toutes ces hirondelles restent à peu près la même période en France, en métropole.
Ça dépend, mais le plus large, ça va être du mois de février jusqu'à l'automne. Et plus les automnes seront chauds, plus elles repartiront tard.
Ok, oui, très bien, parce que je me posais la question de leur cohabitation. C'est de savoir, est-ce que ces cinq espèces qui nidifient en France, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'elles se croisent ?
Alors, assez peu. D'ailleurs, elles ne se reproduisent pas entre elles. Hein. Mais l'hirondelle rustique, c'est franchement la campagne. Hein. L'hirondelle de fenêtre, c'est l'hirondelle des villes. Mmh. Je te dis, j'avais l'exemple des tours, c'était pas la Courneuve, mais l'équivalent dans le sud, où tu avais des hirondelles qui avaient niché sur une porte de garage, tu sais, celle qui se lève, s'ouvre, soulève, etc. Leur nid a résisté 2 ans. Donc, tu vois, elles s'y font très très bien. Les hirondelles de rivage, elles sont le long des cours fluviaux, les hirondelles de rochers dans les montagnes, dans les tunnels qu'on y creuse, etc. Et tout. Et pour le moment, la rousseline, c'est discrète, vraiment dans le sud de la France. Donc, on ne peut pas parler à ce stade de compétition interespèce. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si la rousseline montait un peu plus, se répandait davantage dans le sud, elle pourrait devenir une...
Concurrente ?
Non, une farouche prédatrice du moustique tigre.
Ah, ok, oui, effectivement.
Si j'étais vous, moi, j'en adopterais.
Allô ?
Allô ? C'est toi, Blanche Hirondelle ?
Martial ? Mais où es-tu ?
Je me suis tiré.
En parlant d'encourager les populations d'hirondelles, alors c'est vrai qu'on disait que tu as certaines de ces espèces qui sont classées en gros dans une certaine forme de vigilance, c'est-à-dire à savoir, elles sont relativement menacées. Est-ce que les autorités sont vraiment emparées? Tout à l'heure, tu disais que les villes commençaient à prendre conscience de l'importance et qu'il fallait protéger ces populations, mais est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui suffisant?
Alors ça va être difficile de dire selon les territoires, mais je sens quand même, via mes interlocuteurs à la LPO, qu'il y a un réel souci de mieux les protéger maintenant. Faut pas oublier aussi les amendes qui sont à la clé, hein. Et puis, parallèlement, la diminution des pesticides, donc, sauf en Camargue, hein, où on essaye d'autres pièges à moustiques, parce que sinon, les hirondelles, là-bas, elles ont beaucoup moins à manger. Mais la diminution des pesticides, qui doit atteindre 50%, alors c'est sans cesse repoussé, je ne saurais même plus dire l'échéance, et la restauration des zones humides fera que, oui, les autorités vont mieux les protéger.
Ok, on va terminer quand même l'émission, donc plutôt sur une note positive.
Oui, je dis qu'on peut faire revenir les hirondelles de nouveau avant, pendant le printemps, et les installer peut-être même de façon durable chez nous, dans leur nid.
Est-ce que, par exemple, moi je n'ai pas de nid à proximité immédiate de chez moi, mais est-ce qu'on peut mettre en place, tu le disais, est-ce que toi t'encourages par exemple de fixer déjà une planche ou de mettre en place certaines choses pour potentiellement accueillir une population d'hirondelles?
Alors en fait, tu peux parfaitement trouver en ligne des sites qui vont t'expliquer comment faire des hôtels à hirondelles.
Mmh.
De la même façon qu'on fait des hôtels à insectes aujourd'hui, pour favoriser le fait qu'ils restent dans les jardins, qu'ils pollinisent, etc. et tout, on peut faire des hôtels à hirondelles. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que des expériences menées en Belgique ont montré qu'elles occupaient aussi bien les nids artificiels que leurs nids traditionnels. L'important, c'est d'essayer de les mettre dans des endroits où elles sont déjà venues nicher. Mmh. Et pour ça, le mieux, c'est de se renseigner auprès de la LPO de sa région.
J'ouvrirai une petite page recommandation là dans les secondes à venir. Alors, on a commencé l'émission sur un « et si ». Alors, mon petit toit me dit qu'il y a encore du pain sur la planche avant que ce « et si » ne devienne réalité. Tout à l'heure, tu as parlé d'un éventuel pré-printemps. Donc, on espère que les hirondelles feront le pré-printemps et qu'elles le feront bien en nombre. Alors, pour en savoir plus sur ce fantastique animal ou sur les moyens de le protéger, Rachel, donc là, c'est le moment de sortir tes ressources à dispo. Est-ce que tu as des sites ou des interlocuteurs à nous recommander?
Alors tout d'abord, il y a un instituteur retraité qui a été un observateur pendant plus de 40 ans des oiseaux, qui a aussi un site photo absolument fantastique, qui s'appelle Georges Olioso, et qui a également un site web sur lequel on peut trouver un tas de photographies de tous les oiseaux du monde, parce qu'il ne s'intéresse pas qu'aux hirondelles. Et il vient de publier une somme passionnante sur les hirondelles aux éditions de La Chaux et Nestlé. C'est 204 pages, c'est 29 euros. Il y a des cartes, il y a des photos, c'est absolument formidable. Sinon, pour observer les oiseaux, vous pouvez regarder le site de la LPO Confiné mais aux aguets. Et puis, il y a aussi l'Atlas européen Eurobird qui vous donne aussi une idée des oiseaux qui sont en dehors de la France, mais sur notre continent. Et ça aussi, c'est assez précieux. Voilà.
Pour ma part, je ne peux que vous conseiller d'explorer à tir d'HTML et non à tir d'aile, pardon pour le bon mot, le portail ornithologique oiseau.net et la librairie sonore Xenocanto, X-E-N-O espace C-A-N-T-O. Description, photo, chant, vous aurez de quoi vous remplir le bec jusqu'à plus soif. Et s'il vous reste assez de force pour pousser le vol un peu plus loin, je vous serai énormément reconnaissant de migrer sur la page iTunes de 6ème Science et d'y laisser quelques pépiments de bonheur si cet épisode vous a plu. Un an de semaine, portez-vous bien et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.